grave, ci si ammala un eccesso. Non siamo il sagittalo di puni di ferro. La vie so triste, la vie serait moche. Alors je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est l'émission Idéaux du jour qui commence. C'est le dernier numéro de la saison, on se retrouvera après pour la rentrée littéraire, mais là, comme c'est le dernier, on est allé faire un tour du côté de la littérature de genre et puis du côté de la plage aussi. Alors la première partie de l'émission sera consacré à un ouvrage intitulé « Violette Nozière, icône et criminelle ». Son auteur, c'est Jérôme Leroy. C'est une collection qui paraît à l'Aube Noire en association avec Retro News dans une collection qui s'appelle « L'affaire qui ?» trois petits points. Et donc, nous allons parler de Violette Nozière. Alors, ça peut sembler ringard, mais vous allez voir, enfin plutôt entendre que pas du tout, et qu'il y a des résonances avec notre époque qui sont assez troublantes. Ça, c'est pour la première partie d'émission. Et puis, en deuxième partie, ce sera vacances, puisque déjà, on va quitter les livres et on va passer du côté de la musique, du côté d'un album, qui s'intitule Dark Star et qui a été composé et réalisé par Marlon Magnier. Voilà, vous en saurez plus d'ici quelques temps. Pour l'instant, on retrouve Jérôme Leroy, Violette Nozière, icône et criminelle. C'est tout de suite sur Radio Libertaire.
C'est bien que les fauvettes, comme les clowns, ont le cœur. Et quand elles chantent à tipette, c'est de peur de trop pleurer. Elles font du rire aux larmes, c'est souvent d'avoir trop ri. Elles restent sous le charme, le bonheur n'a pas de prix. J'ai encore le rire de ma mère dans le pavillon de l'esprit. Le cristal d'une chanson amère me revient comme un long cri. Tourne le miroir aux alouettes, voici l'oiselaire de la nuit qui vient gluer les pâquerettes, tendre hirondelles et repartir. Faire danser toutes les yvettes, faire tourner le moulin joli. décoiffés des Catherinettes, ces gentils moineaux de Paris. Retrouver les petits métiers, rémouleur et la rabouilleuse, champ d'habits, chiffon, vitrier, reluquet, blanche, blanchisseuse. Moi je sais bien que les fauvettes, comme les clowns, ont le cœur gai. Et quand elles chantent à tue-tête, c'est de peur de trop pleurer. Pour le miroir aux alouettes, voici l'oiselle heure de la nuit qui vient gluer les pâquerettes, tendre hirondelle et repartir. Pour le miroir aux alouettes, voici l'oiselle heure de la nuit qui vient gluer les pâquerettes, tendre hirondelle et repartir.
C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz avec le grand plaisir de débuter cet idéo et débat de fin de saison avec Jérôme Leroy qui a comme actualité le fait de sortir dans la collection L'Aube Noire un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Violette Nozière, icône et criminel. Moi, ce livre m'a... Au départ, je me disais, bon, Violette Nozière, d'accord. Je pensais au film, évidemment. Et je me suis dit, ça y est, un livre de plus. Eh ben non, c'est beaucoup plus que ça. Et alors, j'ai été captivée à la fois par ce que tu en fais, par l'écriture, que j'aime toujours autant, et... par ce que tu mets en évidence, et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et c'est ce bon sang, mais c'est bien sûr, qui fait tout l'intérêt du livre. Alors, toi, comment ça t'est venu d'écrire ce livre sur Violette Nozière ?
Alors, je pense que là où tu as raison, encore, d'une certaine manière, encore un livre de plus, quoi qu'il n'y en ait pas tant que ça, déjà pour commencer, et puis effectivement, les trois quarts des références qu'ont les gens, c'est, quand par hasard il y a une référence, c'est le Chabrol, qui d'ailleurs ne traite qu'une petite partie et laisse une question, celle de l'inceste...
De côté.
De côté, ou en tout cas, la laisse pas de côté, mais ne se prononce pas. Alors, moi, ce qui m'a tout de suite tenté, c'est que, bon, d'abord, au départ, moi, Violette, je l'ai connue... avant le Chabrol, par les surréalistes, qui en ont fait leur icône. Je me suis beaucoup, beaucoup intéressé au surréalisme à une époque, je n'étais pas tout seul, et j'ai vu apparaître ce nom-là, et plus généralement cette façon dont les surréalistes avaient de s'emparer et du roman populaire, d'une certaine manière, voilà, on pense à Fantomas, qui était des figures du surréalisme, puis on peut penser aussi, donc, et du fait divers, en tirant la substantifique moelle d'une, voilà, c'est le côté justement iconique de Violette. Et la deuxième chose qui m'a encouragé, c'est le, qui m'a vraiment, où j'ai dit oui, parce qu'au début c'était une commande, alors pas Violette Nozière, mais la collection. Parce que la collection est très particulière. C'est une collection qui est dirigée par Michel Pedignelli, qui est une autrice de romans noirs. Et tu as parlé de L'Aube Noire, et c'est en partenariat avec Retro News. Et Retro News, c'est le site... Alors, c'est absolument passionnant. C'est le site, où est le site de la BNF où est numérisée toute la presse existante pratiquement depuis la Gazette de Théophraste de Renaudot au XVIIe jusqu'aux années 70, enfin, pour pas que ça soit trop dans les droits. Donc c'est une mine, si tu veux, c'est une mine absolue. Et l'idée de Michel Pedignelli est de demander à des écrivains de choisir un fait divers, ça s'appelle l'affaire qui, la collection, c'est-à-dire un fait divers, et en fait de s'appuyer essentiellement sur la presse de l'époque. Et je suis le deuxième titre, qui est Valentine Imhoff, qui en a fait un premier. Il y en aura d'autres à la rentrée. Et alors pourquoi Violette Nozière ? Je te l'ai dit. Mais là où je me suis aperçu de mon malheur dans un premier temps, c'est que l'affaire a fait un bruit mais incroyable dans la France des années 30, et que si tu veux, je me retrouvais en recherchant donc la presse qui devait être ma principale source de pour raconter, quitte à remplir les blancs, enfin on parlera peut-être du statut du texte, quitte à remplir les blancs, j'ai commencé à paniquer parce que si tu veux, tout le monde en a parlé, tous les journaux en ont parlé à l'époque, et on en parlait longtemps. Alors, pas tant au moment du procès, mais qu'au moment de l'affaire elle-même, au moment où ça éclate. Et puis, il faut savoir que les journaux tirent à l'époque 1 million d'exemplaires. Violette Nozière, ça commence en 33. C'est là où on commence à avoir un usage de la photographie. Alors, ça, c'est pas pour rien. Violette, ça devient aussi une icône parce qu'elle est aussi une image. Une image et une photo qui reste. Et donc, je me suis retrouvé quand même avec une masse de documentation incroyable et un nombre de références de journaux incroyable. Alors, moi, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est de m'apercevoir que, en gros, tu as trois manières d'envisager Violette Nozière à ce moment-là. Enfin, ce qui se passe avec Violette Nozière, c'est une manière de gauche, qui n'est pas majoritaire, et qu'il y a des nuances. En gros, c'est à travers des journaux comme l'Humanité, où Aragon, d'ailleurs, couvre l'affaire au début, même s'il ne signe pas, couvre l'affaire au début, et il est plus copain avec les surréalistes, ça a son importance, puisqu'il a pris une voie un peu divergente, beaucoup divergente d'ailleurs, puisque il est resté communiste et même franchement stalinien. Le Populaire, par exemple, qui est le journal de la SFIO, et puis la droite, avec toute sa gamme de droite, c'est-à-dire Le Figaro, qui est déjà un journal de droite, mais j'allais dire classique, jusqu'aux journaux d'extrême droite, qui eux ont une immense, ont une sacrée importance. On peut penser à l'Action française. On peut penser à Gringoire. Et donc, il y a ces deux façons de s'emparer de l'affaire. Et puis une troisième qui est purement sensationnaliste, c'est l'apparition de journaux comme Détective, par exemple, des journaux qui traitent le fait divers qui feuilletonnent, comme on disait à l'époque.
Thank you.
ce qui est très intéressant, avant même peut-être qu'on voit le fond de l'affaire, enfin l'affaire elle-même, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que ça marque l'affaire du Hettenauzière marque le moment où, eh bien, finalement, on s'aperçoit qu'on peut instrumentaliser de manière très consciente un fait divers. C'est-à-dire ce qu'on fait tout le temps aujourd'hui, ce qui est devenu systématique aujourd'hui, c'est que ça, là, c'est le premier fait divers, le premier fait divers qui est instrumentalisé. Alors, avant, bien sûr, que la violence de certains faits divers servait à justifier une répression, mais là, c'est carrément enfin, ce qu'on appellerait une bataille culturelle aujourd'hui, qui est déjà là. Ça veut dire quoi c'est quoi la jeunesse? Parce que Violette a 18 ans, on l'oublie toujours parce que tout le monde fait vieux que son âge à cette époque-là, et elle aussi d'ailleurs, particulièrement elle. Enfin, elle a plutôt l'air d'avoir 25 que 18. La deuxième chose, c'est que alors qu'est-ce que c'est que la jeunesse? Qu'est-ce que c'est que l'autorité? À partir de ce moment-là, le milieu social de Violette, qui est une petite bourgeoisie travailleuse avec un père syndiqué, au demeurant le cheminot Baptiste Nozière. Mais qui symbolise en même temps cette France extrêmement malthusienne des années 30, souvent un seul enfant, et qui est un pays de vieux quand même, si tu veux.
Ben oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que avant de parler du fait divers en lui-même, de l'histoire de Violette, il faut reparler de l'époque. Parce que c'est le symptôme d'une époque aussi. La Première Guerre mondiale est passée, il y a eu la crise de 1929, on est dans une...
Comme t'es pas dans une époque mondialisée,
c'est la crise d'arriver.
Met 4 ans. Voilà, oui. Elle arrive au moment de la guerre de Violette Nozière. Elle commence.
Comme tu dis, c'est un pays de vieux, qui a le cœur plutôt frileux, qui s'ennuie un peu. Le côté festif de l'après-guerre a disparu. Et on est surtout dans un système patriarcal absolument phénoménal. Et quand tu évoquais la place de la jeunesse, qu'est-ce que c'est la jeunesse? C'est terrible d'être jeune à cette époque.
Voilà. C'est-à-dire que je le dis un moment pour Violette, elle a, d'une certaine manière, la triple peine. Elle est jeune, elle est femme, et en plus, elle est d'une couche sociale qui est plus tout à fait la classe ouvrière, mais qui est pas encore vraiment la bourgeoisie, mais d'une classe moyenne qui se révèle particulièrement étouffante, mesquine. C'est étouffant. Dès que j'ai commencé à lire la presse et puis de l'époque et à voir la façon dont les journalistes décrivaient le mode de vie de la famille présenté comme exemplaire, mais tout est petit. Voilà, tout est petit.
Même géographiquement, ils ont un petit appartement qui fait que tous les soirs, elle est obligée de déplier son lit métallique dans le séjour.
Elle est dans le 12e arrondissement, elle a quasiment aucune intimité. Alors, c'est pas les pires des appartements de l'époque, mais il y a 30 mètres carrés au 4e sans ascenseur, avec une concierge. Elle a pas sa chambre, la toilette c'est à l'évier, tout ça est très très documenté comme on dit aujourd'hui. Et puis en gros t'as les toilettes sur le palier quoi. Donc c'est pas la misère, mais c'est presque au sens étymologique du terme, c'est la médiocrité. C'est-à-dire c'est vraiment quelque part au milieu. Et c'est pour ça que très vite la référence qui m'est venue. C'est l'univers des romans de Simenon de l'époque. Et l'univers des romans du Simenon de l'époque, et d'une certaine manière, j'ai essayé de le raconter un peu comme un roman de Simenon, c'est-à-dire qui s'efforce toujours j'aime cette devise, comprendre et ne pas juger, contrairement à certains ministres de l'Intérieur bien embêtés en ce moment. pas comprendre, c'est déjà excuser. Non, c'est comprendre et ne pas juger, tu vois. Et à ce titre-là, je pense que c'était la bonne méthode. Et c'est exactement, c'est contemporain de plein de romans de Simenon. C'est la même atmosphère. Et
c'est la naissance de Maigret, comme tu l'évoques.
La naissance de Maigret en 31, qui lui-même d'ailleurs est inspiré du commissaire Guillaume, qui est le boss de la PJ et qui sera chargé dans un deuxième temps de l'interrogatoire de Violette.
À Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée fait en quelque destinée éclore un rêve d'amour parmi la foule. Un amour se pose sur une âme de 20 ans. Pour elle, se métamorphose, tout est couleur de printemps. À Paris, quand le jour se lève, à Paris, dans chaque faubourg, à 20 ans, on fait des rêves, tout est couleur d'amour. À Paris, dans chaque faubourg, quand la nuit rêveuse est venue, à toute heure, une âme émue évoque un rêve d'amour. Les jours heureux, il ne reste trace, toutes les couleurs de la nuit. Mais à 20 ans, l'avenir efface le passé quand l'espoir lui à Paris dès la nuit venue. À Paris, dans chaque faubourg, à toute heure, une âme émue rêvant l'amour.
Donc du coup, c'était inévitable, Simenon.
Si tu veux, c'est la première référence qui m'est venue. C'est celle de Simenon, et je pense qu'il faut penser à ce que l'affaire de elle aurait très bien pu être racontée par Simenon, c'est ce que je dis au départ dans le roman, et je pense que le lecteur de Simenon est celui qui peut-être le mieux saisir l'ambiance de ce qu'a pu être l'affaire Violette Nozière.
Et l'écrivain Jérôme Leroy, dans Violette Nozière, icône et criminelle, s'amuse avec l'écriture à la Simenon.
Oui, bah bien sûr, oui, parce que le but est quand même d'être factuellement exact, tu vois. Mais en même temps, j'ai le droit de remplir les blancs. Je me le donne le droit, et d'ailleurs la directrice de collection Michèle Pedignelli est tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle demande des écrivains, c'est que j'ai le droit de remplir les blancs. Par exemple, ressentir Violette pendant sa cavale, parce qu'alors à un moment donné, donc quand elle est fortement, je vais reprendre peut-être l'affaire au départ rapidement. Donc on est à la fin du mois d'août 1933. Une jeune fille rentre chez elle à 2 heures du matin, ameute les voisins parce que ses parents sont sont asphyxiés, sont intoxiqués par du gaz et ont pris un médicament. Donc on pense à un suicide, et puis des parents, et lors du transport à l'hôpital, le père meurt et la mère survit. Puis très très vite apparaît en fait déjà qu'est-ce qu'elle faisait dehors, puisque pourquoi elle n'est rentrée qu'à 2h du matin. Très vite, les soupçons tournent autour de Violette Nozière, en fait, il y a un faisceau, si tu veux, de présomption qui vire vite aux preuves. Et à un moment donné, elle est emmenée quasiment le lendemain, parce que la police va assez vite en fait. Le lendemain, elle est emmenée en confrontation pour une confrontation avec sa mère. On lui demande d'attendre dans un couloir de l'hôpital, et elle va être dehors. Elle va être en cavale d'une certaine manière pendant plusieurs jours. Et c'est pendant ces plusieurs jours, c'est là-dessus que je me concentre beaucoup dans le roman, non? C'est que c'est quoi une jeune fille de 18 ans dont tout le monde est en train de parler, dont tout le monde découvre que par exemple, elle était très mauvaise élève, elle était virée du lycée, elle sortait beaucoup au quartier latin.
C'est latin, ouais.
Elle se prostituait. Alors, faut pas imaginer une prostitution de style trottoir. Mais il faut imaginer quelque chose qui est avec des étudiants avec qui elle couche, qui lui donnent quelque chose. Mais parfois, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est une vraie manipulation. Elle croit que c'est elle qui est manipulatrice, et c'est souvent elle qui est manipulée. Et donc, on découvre tout ça. On découvre cette vie dissolue, si j'emploie des mots de l'époque. On découvre effectivement qu'elle vole ses parents, qu'elle vole l'argent à ses parents, qu'elle invente sa propre vie vis-à-vis de toute cette jeunesse du quartier latin. Et donc, on la cherche pendant plusieurs jours. Et c'est pendant ces plusieurs jours, cet intervalle. Et moi, je me suis demandé ce qu'elle pouvait en penser. Donc c'est ça l'affaire Violette Nozière, en fait. C'est cette jeune femme qui fait cette jeune fille, cette jeune femme qui est à la limite de la prostitution, qui vit dans le quartier latin entre les étudiants et certains gars du milieu, et qui en même temps a menti à peu près sur tous les points possibles à ses parents, jusqu'à ce qu'on donc elle commette ça. Apparemment, elle avait déjà essayé avant. Et puis, quand elle est arrêtée, elle avoue assez vite, sauf qu'elle lâche une petite bombe. Et fragmentation, c'est que elle accuse son père de d'avoir abusé d'elle pratiquement depuis sa puberté, que sa mère regardait ailleurs, et que voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est la façon dont l'époque encaisse ça.
On suit son chemin tout au long du jour, un soir on bute au détour. Le cœur douloureux, lassé se replie, on regarde au loin la vie, et derrière soi, le long ruban, des peines et des joies s'étendent. Comme un cheval sur le harage, trimé tombe au cours du voyage. Je n'attends plus rien, rien désormais ne m'appartient. Je n'ai gardé que de vieilles histoires au fond de ma mémoire. Je n'attends plus rien, errant dans la vie comme un chien, sans un ami qui me console d'un geste ou d'une parole. Je n'attends plus rien, je me demande à quoi je tiens. Les mauvais souvenirs résonnent dans mon crâne qui bourdonne. Je n'attends plus rien, aucune main ne me retient. Je vais errant et solitaire, si loin que j'aille sur terre. Quand j'étais enfant, j'avais des joujoux, et plus tard j'eus des bijoux. Dansant et chantant, et menant la vie, au tintement des folies, le reste sonnait si brusquement, quand dans les yeux de mon amant, j'ai lu l'amour d'une autre femme. Ce jour-là, j'ai perdu mon âme. Je n'attends plus rien. Rien désormais ne m'appartient. Je n'ai gardé que de vieilles histoires au fond de ma mémoire. Je n'attends plus rien. Errant dans la vie comme un chien, sans un ami qui me console d'un geste ou d'une parole. Je n'attends plus rien. Je me demande à quoi je tiens. Les mauvais souvenirs résonnent dans mon crâne qui bourdonne. Je n'attends plus rien, aucune main ne me retient. Lassé de vivre sans tendresse, je crèverai dans ma tristesse.
C'est-à-dire que Violette aurait voulu faire appuyer là où ça fait mal, consciemment. Je pense pas qu'elle l'ait fait consciemment, mais elle a appuyé là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'elle a renvoyé, en gros, elle attaque la famille. Enfin, en gros, fondamentalement, elle sape tous les fondements d'une société patriarcale. Mmh. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a que des hommes qui parlent de Violette. Évidemment, il n'y a pas de journalistes femmes qui vont s'occuper d'elle. Il n'y a pas de femmes qui vont l'entendre, ni au procès, ni dans les. Enfin, il y a Colette, ça va pas être brillant. La seule voix féminine est une voix qui est plus fidèle à sa classe sociale. Colette qui a son genre. Moi qui aime beaucoup Colette, c'est pas...
Là, c'est un loupé.
Je préfère retenir d'elle sur ce qu'elle dit sur Violette. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette question de l'inceste, la droite a une espèce de... Comme le chaudron de Freud, un peu. C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'inceste, et puis de toute façon, s'il y avait eu un inceste, c'est elle qui l'a bien cherché. C'est en gros les propos de la droite. Alors, assez étrangement, chez Aragon, c'est une défense vraiment stalinienne, c'est-à-dire que c'est une défense qui explique que Violette est devenue ce qu'elle est à cause qu'elle est victime de la bourgeoisie la plus réactionnaire qui soit, c'est-à-dire qu'elle était, d'ailleurs parce qu'elle avait un amant qui était un étudiant de l'Action française, elle s'en foutait, Jean Dabin, qui est vraiment un type assez méprisable, et en plus elle est arrêtée, elle est balancée pendant sa cavale à la fin par trois garçons réac qui abusent un peu d'elle et qui en plus la balancent aux flics.
Mais ils sont tous minables, de toute façon.
Ils sont tous absolument minables. Et donc Aragon, lui, sur la ligne de la défense de Violette Nozière, c'est elle est le symptôme de ce qui se fait de plus. Elle est la victime de réactionnaires sans scrupules qui aiment bien se taper une fille d'ouvrier. Mais alors, assez étrangement, sur la question de l'inceste, Aragon non plus n'y croit pas. Et Aragon n'y croit pas pour une raison qui va paraître ridicule aujourd'hui, extrêmement saillante, c'est qu'un bon ouvrier comme Baptiste Nozière
ne peut pas
abuser sa fille. Par essence, un cheminot syndiqué ne peut pas abuser sa fille, ce n'est pas possible, c'est une invention de la bourgeoisie.
Ça ne rentre pas dans le moule.
Pour discréditer un ouvrier. Ce qui n'empêche pas qu'il défend très fermement, il envisage Violette comme victime, de toute façon, mais pas pour ça. Mmh. Voilà. Et donc, les seuls qui vont voir quelque chose de fondamental quelque chose qui est une des clés de ce qui se passe avec Violette, c'est les surréalistes.
Oui.
Alors, c'est une brochure qui s'appelle Violette Nozier, qui paraît en, qui est imprimée quasiment clandestinement, enfin, qui est imprimée en Belgique.
Belgique, oui.
Qui est imprimée en Belgique, donc à la fin 1933, et qui arrive dans le, qui est quasiment, qui passe clandestinement en France. Faut pas sous-estimer, surestimer son importance, parce qu'elle est quasiment distribuée comme des tracts, au quartier latin, etc. C'est pas distribué dans les librairies, sauf que la presse en parle. Parce que justement, la presse, les surréalistes, déjà, on s'en méfiait beaucoup. Et que, en gros, que disent les surréalistes? Alors là-dedans, il y a Breton, il y a René Char, il y a Arp. Enfin, c'est vraiment un objet surréaliste. En gros, c'est ce que je dis, c'est ils disent « je te crois ». Voilà. C'est-à-dire qu'on te croit. On te croit quand tu dis sur ce que tu dis sur ton père, sur les amants que tu avais. Et puis, en plus, t'es le symbole de l'amoureuse totale qui subvertit l'ordre social, ce que Breton appelait l'amour fou. Qui justement est une façon de, et que tu ébranles profondément les soubassements de la famille, de la patrie, de, enfin voilà, tu fais exactement ce qu'il faut faire dans cette société complètement coincée.
Moi je t'ai mort. C'était un gamin, un gosse de Paris. Pour famille, il n'avait que sa mère. Une pauvre fille, aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Oh, elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le cher bambin, tous les dimanches, lui apportait de belles roses blanches au lieu de s'acheter des joujoux. La câlinant, bien tendrement, il disait, tant les lui donnant. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimais tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour toi, jolie maman. Printemps dernier, le destin brutal va frapper la blonde ouvrière. Elle tomba malade, et pour l'hôpital, le gamin vit partir sa mère. Un matin d'avril, parmi les promeneurs, n'ayant plus un sou dans sa poche, sur un marché tout tremblant, le pauvre mioche furtivement vola quelques fleurs. La marchande, l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit, c'est aujourd'hui dimanche, et j'allais voir maman. J'ai pris ces roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, là-bas, elle m'attend. J'ai pris ces roses blanches pour ma jolie maman. La marchande lui doucement lui dit, emporte-les, je te les donne. Elle l'embrassa et l'enfant partit, tout rayonnant, qu'on le pardonne. Puis à l'hôpital, il vint en courant pour offrir les fleurs à sa mère. Mais en le voyant, une infirmière tout bas lui dit, tu n'as plus de maman. Et le gamin, s'agenouillant, dit devant le petit lit blanc, C'est aujourd'hui dimanche. Tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Et quand tu t'en iras au grand jardin là-bas, toutes ces roses blanches, tu les emporteras. È morta la mamma.
Oui, c'est ça qui est assez fascinant, c'est de voir la charge symbolique qu'a pu recouvrer Violette Nozière, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'elle est devenue une icône, c'est que quelque part... Elle, qui est une jeune fille, toute jeune fille de 18 ans, sous le poids de la pression familiale, du manque de liberté, du fait que quand on est, on passe du père au mari sans avoir jamais d'identité sociale, de cette pression énorme, cette manque de joie de vivre.
Ouais, qu'on ne pourra jamais voter aussi.
Oui, qu'on ne pourra jamais voter, qu'on sera jugé que par des mecs. Par ouais. définition, parce que, voilà. parce que du coup, c'est ça va être sur les listes électorales. Donc, cette société-là, ce carcan-là, donc, qu'elle veut secouer parce qu'elle a envie de s'amuser, Violette, eh bien, il va être transformé et récupéré pour faire une fille de mauvaise vie avec toute la presse,
La fleur vénéneuse, voilà. La fleur de phare, voilà.
Ou l'icône des surréalistes.
Ou l'icône des surréalistes. Et. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a, il y a une troisième chose qui m'avait intéressé aussi, c'est ce qu'avait pu en dire. Alors, quelqu'un comme Céline, qui à l'époque est encore connu comme étant un écrivain libertaire, qui indique quasiment que, parce que ça, c'est donc dans une revue anarchiste, il le fait d'ailleurs, ça s'appelle La Revue Anarchiste, c'est ou qui dit en fait. Que dans une société bourgeoise, l'inceste, enfin, une société bourgeoise ou petite bourgeoise avec la promiscuité, etc., etc., l'inceste est quasiment structurel. Donc, il y a des gens comme ça qui sont extrêmement, extrêmement intéressants. Et puis, voilà, il y a un seul, alors, j'allais dire, il y a un quelqu'un sur qui je voudrais attirer l'attention, parce qu'il a des, il va enquêter. Alors, il est tout jeune. Il n'est pas encore. Je sais pas qui aujourd'hui se souvient de Roger Vaillant, mais Roger Vaillant, qui était qui a été un écrivain communiste d'après la guerre et même qui a eu le Goncourt pour la loi, etc. Qui est mort dans les années au début des années 60, qui a eu son heure de gloire, qui a fait un grand roman sur la résistance, qui s'appelle Drôle de jeu. Un grand roman sur la classe ouvrière qui s'appelle 325 000 francs. Et à l'époque, il n'est pas encore du tout ça. Il est juste journaliste et il bosse, je ne sais plus pour quel journal, mais je pense que c'est L'Œuvre, mais je ne suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises. Mais en fait, qui est pas forcément, il est là parce qu'il faut travailler et il fait un reportage. Et c'est le seul à faire, alors à mon avis, moitié parce que c'était un dragueur, ou moitié par. Mais c'est le seul à faire un reportage absolument passionnant. Sur dans le quartier latin en immersion.
Oui, il va aller interroger effectivement.
Il dit même qu'il est encore c'était encore quasiment ses camarades de fac 3 ans avant. Et donc il va voir, et c'est le seul à le faire. Il va voir seulement des filles. Les trois témoignages que je reproduis sont recueillis par Vaillant, sont ceux des filles. Et c'est là donc il y a cette phrase extraordinaire. Ces filles ont côtoyé Violette, etc., ne sont pas plus choquées que ça. Donc, il peut pas dire que lui est très content d'entendre ça parce que ça sape l'ordre. Il peut pas le dire, mais on voit, quand on sait qui est Vaillant après, on peut lire entre les lignes. Donc, c'est là qu'il y a cette phrase qui est en exergue à l'arrière du livre, c'est mais est-ce que quelqu'un est capable de s'imaginer à quel point une jeune fille peut détester ses parents?
Oui.
Et quasiment une justification en disant conclut l'article en disant c'est sûr que toutes les valeurs de l'après-guerre sont complètement bouleversées, sans dire s'il trouve ça très bien ou très mal. Bon, à mon avis, il trouve ça évidemment très bien, vu ce qu'il deviendra par la suite, parce qu'il était déjà à l'époque, il était dans un autre groupe surréaliste qui s'appelait Le Grand Jeu. Ce qui est à part vaillant et les surréalistes, très peu de monde n'accorde d'importance à la parole, à la parole de Violette, à la parole des ou de celles qui auraient pu être des Violettes, comme les copines du Quartier Latin. C'est ce qui m'a le plus frappé. Je le concevais tout à fait, j'allais dire intellectuellement, je me doutais bien que c'était pas le paradis des femmes des années 30. Mais imaginez à ce point-là. Ce qu'on appelle aujourd'hui une invisibilisation, moi je m'en suis rendu compte presque tactilement, si je puis dire, mais avec la presse, parce que la presse, elle te révèle plein de trucs qu'elle n'a pas prévu de te révéler, en fait. Ce qui est plus intéressant, quand tu lis la presse des années 30, ce qui est intéressant, c'est pas seulement ce qui est intéressant, c'est que elle te donne des infos qu'elle croit être des infos, mais c'est de t'apercevoir, en arrière-fond, elle montre comment on vit, quoi, et comment les gens vivent, et sur des petits détails très techniques, comment on prend le train, comment, etc., et comment on parle ou pas des femmes, en fait, à part ce reportage de Vaillant, au moment de l'affaire Vietnamienne, on n'arrête pas de parler de la jeunesse, sauf qu'on ne fait pas parler des jeunes, quoi.
Oui, non, mais
il y a un communiqué de l'Action française pour dire que l'étudiant qui était l'amant de Violette au moment de son arrestation, mais l'amant qui se faisait entretenir, c'était toujours dans la SNCF, mais c'est trois crans au-dessus, et il trouvait que son père n'avait pas assez d'argent, et donc il tapait Violette. Voilà, un communiqué de l'Action française pour dire qu'il ne faisait plus partie des effectifs des jeunes de l'Action française depuis longtemps déjà. Ce qui est de gros dédouanement, je le mets dans le journal en disant non, en fait, il n'est pas de chez nous. À part ça, on ne donne pas en plus la parole à ceux dont on ne cesse de parler. La jeunesse.
Comme maintenant,
avec à mon avis quelque chose. Dieu sait que c'est sombre maintenant, mais alors avec quelque chose qui est une réalité qui est peut-être en train d'apparaître en France, mais une réalité démographique qui est qu'en plus c'est une France qui a, malgré la saignée de 14, etc., ne fait plus d'enfants ou impose, je sais pas. Mais si tu veux, ne fait plus d'enfants. C'est un pays cette grosse classe moyenne, cette espèce de classe qui apparaît à ce moment-là, qui, je te dis, c'est plus tout à fait des ouvriers, c'est pas encore même des petits, enfin, c'est une espèce de classe moyenne, mais ça veut pas dire grand chose. Mais l'archétype de la, d'ailleurs, on emploie l'expression français moyen souvent pour parler de la famille
de Violette.
Parce qu'on va parler déjà de Violette. Mais ils ont un enfant, en fait. Voilà. En plus, ils ont un enfant et pas plus.
Ça s'appelle Violette Nozière, icône criminelle. C'est paru à l'Aube Noire et Rétro News, là, je l'ai dit. Et c'est de Jérôme Leroy. Et lisez-le parce que c'est vraiment fascinant. Moi, je suis pas une fanatique des exofictions comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en font de très, très mauvais ouvrages. Là, par contre, c'est à la fois passionnant, ça dit beaucoup de choses, il y a un jeu de miroir et en plus c'est bien écrit. Alors allez-y. Merci beaucoup Jérôme.
Si.
la poum, c'est le chéri de ces dames. Prospère, yop, la boum, c'est le roi du macadam. Comme il a toujours la flemme, il ne fait jamais rien lui-même, il a son harem. Qui depuis Chia Barbès, le jour et la nuit sans cesse, fait son petit business. Et le soir, tous les soirs, dans un coin d'ombre propice, faut le voir, faut bien le voir, encaisser les bénéfices. Il empoche les billets et leur laisse la monnaie, oh quel sacrifice. En somme, c'est leur manager, yop, la boum, prospère. Dans un coin d'ombre propice, faut le voir, faut bien le voir, encaisser les bénéfices. Il empoche les billets et leur laisse la monnaie, oh quel sacrifice. En somme, c'est leur manager et hop la boum, prospère.
Roi du libertaire, roi du libertaire, roi du libertaire, roi du libertaire.
C'était donc Jérôme Leroy qui nous parlait de Violette Nozière, icône et criminelle, ce livre qui est paru à l'Aube Noire, associé à Retro News dans la collection L'Affaire Qui. C'est absolument passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé, puis j'aime bien l'écriture de Jérôme Leroy, donc vraiment, je vous le recommande. Voilà pour le dernier livre chroniqué pour cette saison. Là, maintenant, nous allons passer à autre chose, puisque nous allons parler de Dark Star, l'album solo de Marlon Manier, et on va le retrouver d'ici quelques instants.
Thank you. continue quand même. Oublie la haine, poursuis ta route, laisse-la faire la sienne.
Elle ne t'aime pas, c'est un titre de La Femme. La Femme, c'est un groupe que j'aime beaucoup et qui a fait son dernier concert à l'automne dernier à l'Accor Arena. Et La Femme, c'est un groupe qui était composé de Marlon Manier et Sacha Gott et qui était né à Biarritz. Et donc, à l'issue de ce dernier concert, Marlon Manier a travaillé de son côté, Sacha Gott aussi d'ailleurs, mais Marlon Manier a sorti un album intitulé Dark Star au printemps. Et à cette occasion, on avait envie de le rencontrer, de parler de ce disque qui est très chouette et dont vous allez entendre de nombreux morceaux. Qui sont un peu dans la continuité, bien sûr, de La Femme, mais avec une tonalité quand même un peu singulière, particulière à Marlon. Cette interview, elle a été faite dans des conditions un peu particulières, il faut le préciser, et c'est important parce que la qualité sonore est quand même franchement mauvaise, mais nous l'avons fait à la Côte des Basques, à Biarritz, sur la plage, il y a quelques temps. Voilà, c'était déjà vacances, il faisait beau, c'était marée remontante, on entend le vent, on entend les vagues. Ça paraissait idéal pour rencontrer Marlon Manier au niveau du contexte et du décor, et puis pour annoncer l'été que nous allons vivre. Voilà, donc c'est Marlon Manier. C'est Dark Star, on le retrouve tout de suite à la Côte des Basques. Donc pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir d'être avec Marlon Manier à Biarritz, à la Côte des Basques. On ne pouvait pas rêver mieux.
Ouais, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices.
Alors, on est là pour parler d'un album solo qui s'appelle Dark Star, est sorti au mois de mars.
C'est ça.
Alors, c'était bien parce que moi j'étais à l'Accor Arena au mois de novembre.
Ah, génial.
Et puis j'ai vu, bien sûr, le concert à Lille. À la Bulle Café, et j'aime beaucoup cet album. Alors, Dark Star, il y a une référence particulière?
Mais non, il n'y avait pas de référence à la base. En fait, c'est surtout le nom qui est venu à moi en fait, et qui m'a interpellé parce que je le trouvais super cool comme nom. Et je ne suis pas allé chercher plus loin. Et en fait, j'ai appelé mon studio comme ça. Ensuite, j'ai appelé le morceau Dark Star parce que c'était un morceau un peu dark, un peu sombre, mais aussi lumineux, tout ça. Et je trouvais ça intéressant. Et après, en fait, je cherchais un nom d'album cool. Et moi, j'ai failli l'appeler plus fort que toi, et finalement, je me suis dit que Dark Star, ça sonnait mieux. Mais en vrai, je pense que toutes les raisons, elles sont inconscientes, quoi.
Oui, alors, moi, je trouve que ça colle bien avec la tonalité de l'album, parce que... Alors, mon émission est une émission d'actualité littéraire, mais bon, il y a quelquefois des pas de côté, et ça, c'est chouette. Et moi, ça me fait penser à cette obscure clarté qui tombe des étoiles, bien sûr. Et je trouve que cet oxymore, ça va bien aussi avec l'album.
Exactement, c'est
parce,
vrai.
Parce qu'il y a le côté à fond de la musique, qui est super speed, super énervé et qui donne une pêche absolument incroyable. Et en même temps, les morceaux en eux-mêmes ne sont pas d'une gaieté folle. Il y a
non, c'est vrai. Et puis même aussi le dernier morceau de Dark Star, il est très lent. C'est un morceau de piano classique
qui contraste bien
aussi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oxymores dans l'œuvre et beaucoup de contrastes. On aime bien travailler avec ça. Des fois aussi des morceaux gays avec des paroles tristes, des morceaux rapides, d'autres lents, etc. C'est important le contraste, et puis c'est comme ça qu'on met en valeur les choses.
Un nouveau jour qui commence, et pourtant c'est l'angoisse qui recommence. Je ne comprends pas, pourtant aujourd'hui il fait beau. Et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. T'as déjà eu ce truc, comme une vis dans la tête, et le cœur qui fait bim bam bim bam boum. J'ai le mal, juste le mal de vivre. Oui je sais c'est rien, y'a des choses plus graves dans la vie. Mais se sentir bien, c'est quand même important. C'est sûrement cette fille, c'est sûrement cette fille. Je vais peut-être la retrouver, elle va peut-être se décider. Mais en attendant, je suis seul et j'attends. Pourquoi ce nuage gris encore sur ta tête? Je te l'avais dit, si tu continues comme ça, je te laisserai là-bas, je te laisserai là-bas. Au milieu de tes fracas, je te laisserai la vie. Tu te demandes si tu avances, et pourtant les mêmes tracas qui recommencent. Je ne comprends pas pourquoi quand le bonheur est là, et quand j'y repense, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas. Hier sous la lune, j'ai encore rêvé de toi, et ton cœur qui fait bim bam bim bam boum. Ça fait mal à vivre. Mais c'est pas très grave, juste un aléa dans la vie. Mais se sentir bien, c'est tellement important. Ce n'est pas cette vie, ce n'est pas cette vie. Tu ne dois pas la retrouver, mais tout simplement l'oublier. Car en attendant, tu es seul et tu attends. Quand ce nuage gris est revenu sur ta tête, je te le redis, allez mieux ne dire qu'à toi. Si tu continues comme ça, tu resteras tout seul là-bas. Car elle ne reviendra pas, tu resteras tout seul là-bas. Je te laisserai là-bas.
C'est speed tout le temps, sauf le dernier.
Ouais, et puis il y a aussi celui du milieu, le septième, la première, qui est mid-tempo, on va dire.
J'adore, ouais. J'adore cette chanson.
Cool.
Alors, oui, c'est ce côté à la fois, on traverse des difficultés, on traverse des angoisses, on peut être en haut de la falaise à attendre avec des idées suicidaires,
ouais.
Mais en même temps, c'est never ever surrender.
Ouais, c'est vrai. Et puis toujours, ouais, jamais abandonner, toujours travailler pour la lumière et pour le bien, au final. Même si on est sombre.
Je crois que Cause There Is No Time, c'est un peu dépressif aussi.
Ouais, bah ouais, c'est dépressif, mais il y a de l'espoir aussi dans la mélodie. C'est un peu un morceau de renouveau, mais c'est un morceau vraiment, je le vois un peu comme une parenthèse, parce que c'est un peu comme la fin de parenthèse et le début d'une parenthèse, ce morceau. C'est un peu un morceau de changement de cycle. Super agréable à écouter le matin quand on se lève, mais aussi super agréable à écouter le soir quand on se couche. C'est un morceau, je pense, pour se remettre en question. Pour comprendre qu'on fait fausse route, mais aussi pour comprendre qu'on fait bonne route. C'est assez compliqué, c'est drôle.
Et qu'on continue.
Ouais, non, mais ouais, exactement.
Les influences musicales, qu'est-ce que tu avais envie de donner
J'avais vachement envie de revenir au premier truc que j'écoutais quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans. Faire aussi un album qui plaît aux jeunes de 15, 16 ans. Et de moi, en fait, si j'avais eu 15, 16 ans aussi, je me suis pas mal posé la question, est-ce que j'aurais aimé l'album comme ça, donc c'est intéressant, quoi. Il y a un peu une sorte de retour aux sources et à l'enfance. Je sais que pendant le processus aussi, c'était pas forcément voulu, mais il s'est passé plein de choses où j'ai renoué un peu avec soit des gens que j'avais pas vu depuis 16 ans, 17 ans, etc., ou des trucs comme ça, quoi. Donc c'était assez intéressant dans le processus. Aussi même revenir à des endroits que j'avais pas vu depuis 20 ans, donc voilà.
Donc il y a une série de concerts également, tu tournes pas mal.
Ouais, j'ai fait pas mal de concerts là en Europe, ça continue encore, là il va y avoir des festivals et après une tournée aux États-Unis en septembre.
Bien,
ouais.
Et alors comment il est accueilli l'album?
L'album est quand même super bien accueilli, les gens l'aiment beaucoup, disent que c'est de la bonne musique de qualité, donc ça fait plaisir. Après, je pense que c'est un succès encore modeste. C'est pas un énorme succès. C'est pas non plus un échec. C'est entre les deux. Mais en tout cas, tous les gens qui ont écouté l'album l'adorent et sont super contents, quoi. Plein de gens aussi doutaient parce qu'ils se demandaient comment ça allait être un album solo d'un des gars de la femme, sans la femme, etc. Donc il y en a plein qui sont contents et qui trouvent que le pari est réussi, quoi.
Vois la suite alors.
Mais là, je suis en train de travailler sur un deuxième album.
Déjà.
Ouais.
Qui sera dans la même tonalité.
Bah peut-être pas justement. Je pense qu'il va être un peu plus gospel Motown, 60s quoi. Tu vois, je pense qu'il va être plus un truc comme ça quoi. Et là ouais, j'essaye de travailler sur un truc un peu deep où je me dis j'aimerais bien faire un album un peu comme celui de Stevie Wonder qui s'appelait The Key of the Life, je crois, un truc comme ça. Enfin un gros double album avec pas mal de morceaux assez puissants. Qui relie à la vie et qui traite de la vie pas mal quoi.
Toujours les mêmes thèmes quoi.
Bah ouais, mais là ça va être des thèmes un peu, je pense, plus magiques et spirituels et plus d'amour au sens plus large du terme, et peut-être moins d'histoire d'amour au sens amoureux, mm-hmm. Mais plus amour universel peut-être quoi.
Ah, c'est pas mal ça.
Ouais. Oh. C'est plus dur.
Ça tombe bien en ce moment.
Bah ouais, ça va être deep. Et j'avais envie de l'appeler The Secret of the Life, modestement.
Et quand est-ce que tu ouvres une secte?
Mais grave, non, mais j'ai pas envie d'ouvrir une secte, mais après, de juste de
faire passer
d'envoyer
des
voilà, des messages et que ce soit peace et que ce soit gentil, etc. Je pense qu'une secte, malheureusement, même si ça doit être, il doit y avoir des très bons côtés, ça doit être assez drôle. Je pense qu'il y a un moment, l'humain fait que ça part en dark, forcément, et c'est compliqué. Déjà qu'avec les religions aussi, c'est compliqué.
Donc,
secte, religion, c'est un peu compliqué, je pense. C'est des terrains assez risqués quand même de s'aventurer, mais c'est drôle.
Enfin, parler du rapport aux autres, c'est important quand même, quoi. C'est effectivement une bonne piste.
Ouais. Et puis du rapport à la vie, du rapport à l'univers, du rapport aussi à pourquoi on est là aussi. À essayer d'aller en fait dans les grandes vérités qu'on se demande, quoi.
C'est osé.
Philosophique, ouais, exactement. Mais il faut bien le faire, hein. C'est pour ça. Là, tu me demandes, alors je t'en parle, mais je suis quand même encore avec des pincettes à réfléchir quel axe je vais prendre parce que ça va être. Faut que ça soit bien fait, quoi.
Je suis rentrée chez moi, ma tête qui me dictait. Je voulais juste lui rendre ce qu'elle m'a donné. Comme un lit, je défie les éléments. Et si la foudre me frappe, c'est que j'en avais. Sur ce rocher, qu'une vague m'emporte jusqu'au large. Une lame de fond, dans le fond reste une lame. Oh, oh, je suis déchiré. Oh, elle m'a dévasté. Simplement défier les éléments pour devenir une étoile. Et tu la regarderas sans savoir que c'est moi. Je me sens dévasté. Je me sens dévasté.
Classique de la SF, et c'est rigolo parce qu'il y a une histoire à un moment où le mec se retrouve à parler philosophie avec une bombe pour la persuader de ne pas exploser, et donc il lui dit mais qu'est-ce qui prouve ton existence, et il y a tout un dialogue,
c'est génial,
comme ça,
c'est drôle ça.
Donc je me dis que quelque part ça résonne,
quoi. Ouais, il faudrait que je le regarde.
Ah, c'est un beau nanar.
Ouais, cool, j'aime bien. Nous, on avait fait un film d'ailleurs, je sais pas si vous l'aviez vu, Paradigme, le film.
Non,
et pareil aussi, on a fait un beau nanar.
Non, on connaît que les disques. Et
il est sur YouTube, si jamais vous le regardez,
ouais,
gratuit.
Voir, ouais. Et donc, projet de sortie quand pour ce nouveau disque?
Septembre 2027, je pense. Je vais essayer de viser.
C'est court.
Ça. Ouais, mais j'ai un peu l'urgence du temps maintenant. Là, plus je vieillis, plus je grandis, et plus je me dis que j'ai pas assez. Enfin, que j'ai encore plein de choses à raconter, que le temps passe vite, que ça prend du temps à faire les œuvres. Donc. J'essaye de me mettre des deadlines courtes et de m'y mettre tout le temps. Donc là, l'album était déjà sorti, que j'étais déjà en train de travailler sur le prochain. Et c'est un peu triste parce que j'aimerais bien avoir plus de temps. Mais en vrai, le temps, il passe tellement vite dans une vie. Et là, je me rends compte maintenant que j'ai dépassé la vingtaine, tout ça, que là, je commence à toucher la quarantaine. Ça commence à aller... Donc, il faut que je m'y mette, quoi, à fond.
Et écrire que des chansons, pas se mettre à écrire un bouquin.
Un livre aussi, ouais. Un livre, j'aimerais bien. Moi, c'est juste qu'à la base, je suis très mauvais en syntaxe, en orthographe et tout. Mais en tout cas, j'ai des idées. Hein. Faire deux livres. Une autobiographie ou une biographie de la femme ou de moi, mais pour raconter un peu comment ça s'est passé, tout ça. Et après aussi, j'aimerais bien faire un jour un livre aussi ouf que Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars ou Harry Potter.
Ah, carrément.
Ouais, un truc vraiment vénère où il n'y a que des mondes. C'est un truc en 8 tomes comme Game of Thrones. Mais ça, j'ai prévu de commencer. Enfin, là, j'ai commencé à réfléchir, mais je vais commencer à m'y mettre dans 10 ans. Mais là, avant, je veux quand même aller à fond dans la musique. Surtout que la musique, en plus, c'est tellement dur déjà de continuer à faire de la bonne musique en étant âgé, alors que je trouve que les livres, non. Mais quand on voit l'histoire, tous les artistes passés 50 ans, souvent, 50% des cas, c'est moins bien. Et c'est aussi super fatigant de faire des tournées, de défendre des albums, tout ça. Donc je me dis que l'écriture, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse plus avec la sagesse un peu plus vieux, quoi.
Les livres que...
Bah, moi en fait je lis pas trop, mais les livres qui m'ont marqué, j'ai bien aimé Vers Coquin et le Plancton de Boris Vian. C'est un livre que les gens connaissent pas trop de Boris Vian, mais qui est très drôle et qui parle des fêtes à Paris dans les années 30 avec les Azou, 40 aussi. Il y a un côté un peu punk dans le livre qui est assez intéressant, un côté aussi complètement absurde aussi, c'est drôle. J'avais bien aimé aussi Le Parfum, Le Comte de Monte Cristo, voilà des classiques comme ça. J'avais bien aimé aussi Papillon. Malheureusement, en fait, je lis de moins en moins et en fait, je suis tellement tout le temps avec les écrans, avec la musique et plus maintenant, en plus avec les iPhones. Je trouve que c'est avec le scrolling, c'est assez alarmant. On lit de moins en moins et on a moins le temps parce qu'en fait, on garde de la merde sur nos téléphones sans cesse, quoi. Et j'en fais partie, et c'est vrai que je suis accro à cette merde aussi, j'essaye de m'en défaire, mais c'est bien pensé, quoi.
Alors, dans le, je reviens au côté musique, il y a une grande date à Paris, c'est le Trianon, c'est le 14 novembre.
Ouais.
Ça va être différent, parce que moi, j'ai vu le concert dans une toute petite salle.
C'était ah ouais, là, l'énergie, partie. Ça va être différente. Ouais. Justement, je me posais la question, en fait, à quel point je fais le même show ou pas. Et souvent, des fois, on a tendance à faire l'erreur de se dire, tiens, pour la grosse salle, on va faire un show complètement différent. Mais en fait, c'est con, parce qu'il faut mieux faire le show que tu es habitué à faire depuis des mois et qui est bien rodé. Par contre, je pense que je vais avoir quelques guests. En tout cas, c'est cool, il va y avoir un gros son. Tout le public va être fédéré. Donc, c'est aussi ça, les grosses salles. Et c'est vrai que quand on a fait Bercy, on était vachement contents. Parce qu'en fait, au-delà d'aspect inhumain, en fait, il y a un côté ultra humain. Parce que tu as 14 000 personnes qui chantent à l'unisson les paroles. Et ça, c'est vrai que c'est une sensation de fou pour le public
fête.
Et pour l'artiste, quoi.
Alors, le Trianon. 14 novembre,
ouais.
Ça, je me trompe pas.
Ouais, 14 novembre, exactement.
Il y a encore des places.
Ouais, il reste encore quelques places. Je suis assez content parce que on a vendu les deux tiers quand même, donc c'est déjà un bon signal. C'est pas évident, tu sais, quand tu reprends solo et tout, de savoir combien tu vaux de tickets, qu'est-ce que machin, comment ça va se passer. Donc c'est cool, quoi.
Bah, on se voit là-bas. Alors.
Bah ouais, bah
merci,
trop cool.
Marlon.
Ouais,
et
bah puis, merci infiniment pour l'interview.
Écoutez Dark Star.
Ouais.
C'est sur toutes les plateformes. Je recommande surtout pour l'été qui arrive. Là, c'est voilà.
C'est super.
Merci.
Merci infiniment.
Yes, it does.
C'est toujours Radio Libertaire, toujours 89,4 MHz. Voilà, la saison est finie. On dit au revoir à Jérôme Leroy et à Marlon Magnier. On se retrouvera à la rentrée avec des tas de gens et de livres passionnants. On commencera par un livre de Jérôme Leroy et ce n'est pas un gag. Et puis, bien d'autres. Il y aura Véronique Valdé, il y aura Marion Brunet, il y aura Séverine Chevalier. Enfin, plein de gens intéressants et plein de livres passionnants. D'ici là, passez un bon été, portez-vous bien.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Pour ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, libre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Marmotte. Marmotte, dors mon vieux, dors, percé, berçant, fait froid dehors, ça glace le sang, mais y a que chez soi, que pour ceux quatre coins.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse.